l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous accompagner, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat après les regrets de la Belgique pour son passé colonial en République démocratique du Congo. Cette semaine, dans une lettre adressée au président Tshisekedi à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la RDC, le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. Le roi reconnaît une colonisation marquée par des actes de violence et de cruauté. Alors, que vous inspire ce geste historique de la monarchie belge? La RDC devra-t-elle se contenter de ses regrets? Ou la Belgique, finalement, devra-t-elle à terme demander pardon et envisager même des réparations, comme le réclament certaines voix? On en parle ce matin sur RFI, vous nous appelez, vous êtes nombreux sur la page Facebook et sur le compte WhatsApp. Je vous attends au téléphone 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les jours, vous le savez, nous commençons cette émission avec vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va parler justement de la République démocratique du Congo et surtout de cette polémique autour de la réforme de la justice. Édith Divin, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour Sonia, bonjour à tous.
Ah, vous êtes bien informé, vous savez que Sonia Rollet, journaliste au service Afrique de RFI, répondra à vos questions. J'en profite donc pour l'accueillir et pour la saluer. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Édith Divin.
Les députés Minaku et Sakata ont déposé à l'Assemblée 3 propositions de loi sur une réforme de la justice qui crée des tensions au sein de la coalition. Mmh. Alors, je voudrais savoir, qu'apporteraient ces lois comme changement concret au système judiciaire congolais?
Oui, ce projet de loi, ce projet de réforme qui est au centre d'un nouveau bras de fer entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila. Sonia Rollet, on va essayer de comprendre exactement pourquoi, à l'heure actuelle, le parti présidentiel, les partis de l'opposition et la société civile sont vent debout contre cette réforme. Expliquez-nous ce que prévoit comme changement la réforme.
Alors, ce que prévoit cette réforme, c'est de renforcer les pouvoirs du ministre de la Justice, donc un poste actuellement tenu par une personnalité du FCC, donc de renforcer les pouvoirs du ministre de la Justice sur tout un volet, en fait, de la politique judiciaire et notamment sur la définition de la politique criminelle et sur le contrôle des procureurs. Donc, il y aurait l'institution d'une conférence, en fait, des procureurs qui serait une sorte de cadre de concertation et d'échange en vue de définir une politique criminelle commune, mais qui serait présidée par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice aurait aussi la possibilité de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un magistrat du parquet défaillant, mais dans la loi, il ne précise pas exactement les cas en fait où le magistrat pourrait être défaillant, mais ça voudrait dire des sanctions qui pourraient être imposées par le ministre de la Justice. Et puis le ministre de la Justice pourrait également, sur proposition donc du Conseil de la magistrature, nommer des magistrats provisoires. Il y aurait aussi un renforcement du contrôle en fait de l'exécutif sur ces nominations, puisque le président de la République pourrait aussi désigner, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats. Donc on voit, et c'est ce qui inquiète notamment l'Église catholique, la société civile, l'opposition, mais aussi le parti présidentiel, c'est de voir finalement l'exécutif prendre une main beaucoup plus importante sur le pouvoir judiciaire et surtout contrôler donc la politique de poursuite.
Ouais, étouffer l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est ce que dénoncent les contestataires. Ils y voient une volonté de mettre l'institution judiciaire sous le contrôle du politique et essentiellement sous le contrôle du ministre de la Justice. Voilà, c'est vrai que les raisons sont un peu techniques, mais on résume bien la situation en expliquant effectivement ce manque d'indépendance de la justice à terme si la réforme est adoptée.
Bah, disons qu'en fait, il y aurait beaucoup plus de contrôle sur la capacité ou non de poursuivre quelqu'un par le ministre de la Justice. Il aurait vraiment beaucoup plus de pouvoir là-dessus, il y aurait moins d'indépendance du parquet de décider des poursuites, puisque si jamais un procureur décide de faire une poursuite, et comme les cas ne sont pas très définis, en fait, au niveau de la loi, les cas où de manquement, s'il décide de poursuivre et que le ministre de la Justice dit ces poursuites n'étaient pas acceptables ou pas légales ou pas à ce moment-là, le ministre de la Justice peut prendre des sanctions. Et c'est ça qui inquiète, parce que, en l'occurrence, aujourd'hui, que ça soit le parti présidentiel, que ça soit l'opposition ou la société civile, il y a l'idée que, notamment avec le procès de Vital Camere, il y a un début de justice indépendante ou un début de libération en fait du pouvoir du parquet qui commence à lancer des poursuites, même si sur le cas de Vital Camere, il est très clair que c'est le ministre de la Justice qui avait proposé en fait d'ouvrir une instruction et qui donc avait donné les instructions au parquet. Mais reste que c'est quand même ça. L'idée générale, il y a eu des poursuites qui ont été lancées sur des cas de corruption, et donc l'inquiétude, en tout cas, c'est de voir le FCC finalement contrôler en fait ces enquêtes et limiter ces enquêtes.
Oui, le FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila. Edith Divin, vous avez une dernière question, rapidement.
Oui, Juan. Qu'est-ce qui explique la nécessité et l'acharnement du FCC à faire voter ces lois maintenant?
Alors, pourquoi une telle loi maintenant, Sonia?
Alors, sur le fond de l'opportunité de la loi, justement, c'est là où il y a le plus de contestations, puisque ce qui était attendu par le Parlement et en urgence, c'était l'adoption d'un collectif budgétaire, c'est-à-dire d'une rectification de la loi de finances pour réduire le train de vie des institutions. On est en période d'état d'urgence sanitaire, et c'est un peu ce que disait le président Tshisekedi, c'est il n'y a pas urgence à faire ce type de réforme. On l'a entendu, surtout que c'est une réforme qui est polémique et que on est dans un moment de lutte contre le Covid, donc il ne faudrait pas lancer de sujets polémiques en ce moment. Donc voilà, il y a vraiment un énorme soupçon sur le FCC d'une volonté en fait à un moment où il y a beaucoup de pression, et on le voit encore aujourd'hui pour lancer des poursuites sur des cas de corruption qui datent de la période de Joseph Kabila, et donc ce qui est perçu, alors évidemment le FCC se défend en disant que pas du tout, que c'est une bonne manière en fait de créer justement une politique criminelle ou d'avoir une politique de poursuite qui soit un peu plus unifiée, de définir des grandes stratégies de lutte contre la criminalité qui seraient portées par le parquet et qui seraient inspirées par le ministre de la Justice et le gouvernement. Donc pour eux, c'est plutôt une manière de réorganiser ou de soutenir le pouvoir judiciaire. Mais c'est vrai que y compris le parti présidentiel avec lequel ils sont censés être en coalition, estime lui que c'est plutôt une manière de mettre au pas le début de l'indépendance de la justice qu'observé ces dernières semaines ou ces derniers mois.
Et on y reviendra demain dans la Libre Antenne. Les auditeurs congolais sont nombreux à souhaiter commenter cette réforme de la justice et les répercussions, les conséquences politiques au sein de la coalition au pouvoir. On en reparlera donc demain dans la Libre Antenne, c'est promis. Sonia, on avait d'autres questions de prévues, mais le temps passe très très vite, donc on vous rappellera la semaine prochaine pour répondre à ces auditeurs, pour essayer de comprendre cette réforme qui est compliquée sur un point technique, mais passionnante politique. D'autres questions, d'autres sujets évidemment qui vous intéressent, 33 9 693 693 70. On va revenir sur la condamnation de l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Bonjour Tanguy.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes au Gabon, vous nous appelez de Libreville.
Précisément dans la ville d'Akanda, dans la commune d'Akanda.
D'accord, très bien, on vous écoute.
L'ancien Premier ministre François Fillon a été condamné à 5 ans de prison dans 2 fermes, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. En tant qu'ancien Premier ministre, va-t-il faire sa peine de prison ou voir sa peine aménagée?
Ah oui, vous avez l'impression que François Fillon aurait peut-être des privilèges en tant qu'ancien Premier ministre. Bonjour Laura Martel.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous avez suivi ce procès pour RFI. 2 ans de prison ferme donc pour François Fillon, reconnu coupable de détournement de fonds publics dans cette affaire des emplois fictifs de son épouse et de ses enfants. Je comprends la question de Tanguy. Il se dit, bon, certes, un homme politique est condamné, mais bon, il a été Premier ministre et après le verdict, il n'a pas été incarcéré. Ira-t-il, oui ou non, en prison?
Alors d'abord, une précision, en droit, tout citoyen est injusticiable comme les autres devant la justice, y compris quand il a été ex-premier ministre. Donc normalement, son ancienne fonction n'a aucune influence sur le fait de faire ou non sa peine, même si on sait que souvent les politiques ont des aménagements, mais notamment parce qu'ils sont en mesure de donner des garanties de stabilité ou éventuellement de non-récidive. Alors d'abord, malgré les 2 ans fermes, pourquoi il est ressorti libre du tribunal? Et bien tout simplement parce que que la justice n'a pas demandé de mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé qu'il soit incarcéré immédiatement. Et en plus, bah, les avocats de François Fillon ont immédiatement interjeté appel. Et en droit français, en fait, cet appel est suspensif. Ça veut dire que l'ensemble des peines est suspendu en attendant la tenue du procès en appel. Ça marche pour la peine de prison, hein, mais aussi pour les amendes, 375 000 euros infligés à chacun des membres du couple. Et pour les peines d'inéligibilité. Alors, Fillon lui a dit qu'il quittait la vie politique, mais ça peut être important pour sa femme, Pénélope, qui a eu 2 ans d'inéligibilité et qui a été élue dimanche conseillère municipale de sa commune, tout comme son ex-suppléant, Marc Joulot, qui lui aussi a écopé de 5 ans d'inéligibilité et qui lui aussi a été élu au conseil municipal de sa commune. Mais donc, tout cela est suspendu pour le moment, en attendant le procès en appel.
Donc, en attendant l'issue du second procès, l'ancien Premier ministre demeure libre. Tanguy, vous avez une autre question ?
D'accord. Le couple Fillon va-t-il rembourser les sommes injustement perçues et à qui ?
Alors, les salaires indûment perçus, François Fillon, Pénélope Fillon, vont-ils les rembourser ?
Alors là, c'est pareil que pour l'ensemble de la peine, hein. Puisqu'il y a appel, pour l'instant, ils ne paient rien du tout. Alors ensuite, si la peine est confirmée en appel, eh bien, ils vont devoir payer les amendes, je disais, 375 000 euros chacun. Donc ça, ça va en fait à l'État français, hein, à la fiscalité. Après, ils ont été condamnés aussi à rembourser plus d'1 million d'euros à l'Assemblée nationale au titre des sommes que Pénélope Fillon a perçues, indûment, donc, selon le tribunal. Et donc ça, eh bien, devront les payer à l'Assemblée nationale si la peine est confirmée. Alors, il y avait, ça c'est plus d'1 million, il y a aussi quelques 150 000 euros qui avaient été détournés selon le tribunal auprès du Sénat au travers du paiement des enfants Fillon. Et bien là, comme le Sénat ne s'est pas porté partie civile, et bien là, il n'y a pas remboursement. Et puis, je voulais juste signaler que si François Fillon voit sa peine de prison confirmée en appel, et bien là, oui, hein, Tanguy, il devrait aller en prison, puisque jusqu'au 24 mars dernier, les peines étaient aménageables jusqu'à 2 ans de prison, donc il aurait pu voir sa peine aménagée, mais il y a eu depuis une réforme de la justice, donc qui est entrée en vigueur en mars dernier, et là, eh bien, elle prévoit que à partir d'un an de prison, les peines ne sont plus aménageables. Donc oui, si les 2 ans sont confirmés, François Fillon devrait aller en prison. Il pourrait néanmoins, une fois que les 2/3 de sa peine ont été effectués, demander une libération sous contrainte, c'est-à-dire éventuellement avec un bracelet électronique ou une liberté conditionnelle, où il pourrait par exemple occuper un emploi pendant la journée mais devoir rentrer en prison le soir.
Tanguy, a-t-on été complet dans nos explications ?
Totalement satisfait. Merci Laura et merci Juan.
Merci à Laura Martel du service France de RFI. Tanguy, je vous remercie de nous avoir appelé, de votre fidélité. Bonne journée à Libreville, 10h23 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes au Togo, vous nous appelez de Sokodé.
Oui.
C'est bien ça. Vous avez des questions concernant la lutte?
J'ai des questions, oui, concernant la Covid-19 par rapport à l'OMS.
Bien sûr, allez-y, nous vous écoutons.
Oui, l'OMS a présenté comme bénéfique pour les malades du Covid-19 l'anti-inflammatoire, la désaméthasone. L'organisation souhaite une augmentation de la production et de sa diffusion rapide, là où il est nécessaire, bien entendu. Et ma première question est de savoir quelle est l'efficacité, et de connaître l'efficacité de ce traitement, et comment a-t-elle été prouvée ?
Alors, c'est vrai que... Alors, on va déjà répondre à cette première question, si vous le permettez, d'autant que l'information est importante, hein. L'OMS a dit il y a quelques jours qu'il fallait augmenter la production mondiale de ce médicament, la dexaméthasone, exactement, pour être précis. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Sciences de RFI, dexaméthasone, d'abord, de quoi parle-t-on ?
Alors, c'est un anti-inflammatoire qui est très connu, hein, qui est répandu dans le monde et qui a été testé en fait dans l'essai britannique, l'essai clinique Recovery, qui testait plusieurs autres traitements dont l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le tocilizumab, un autre anti-inflammatoire. Donc c'est une étude de grosse ampleur qui a été menée sur plusieurs milliers de patients et plusieurs centaines d'hôpitaux au Royaume-Uni. Ce qu'ils ont fait, c'est donc ils ont fait un essai clinique, ils ont donné la dexaméthasone à des patients et ils ont comparé l'évolution clinique de ces patients à ceux qui n'en avaient pas reçu, ce qui a 2 bras et non un groupe contrôle. ce qu'ils ont vu. Donc précisément, ils ont donné à dexaméthasone à 2100 patients et ils ont comparé ça à 4320 patients qui n'en avaient pas reçu. Et c'est ce qu'ils se sont aperçus, c'est que pour les patients les plus durement atteints, ceux qui étaient en service de réanimation intubés notamment, la dexaméthasone permettait de réduire la mortalité d'un tiers. Donc c'est pas un effet qui est fracassant, mais c'est un effet qui est très intéressant puisqu'on le sait, par définition, la mortalité, elle est le plus haut dans ces services de réanimation pour les patients qui sont intubés. La diminuer d'un tiers, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un très bon point. Pour les patients un peu moins atteints, mais qui nécessitaient tout de même d'être sous oxygène, par exemple avec un masque, là, la mortalité était de 1 sur 5, a diminué d'un cinquième. C'est moins impressionnant, mais c'est quand même notable. Et enfin, pour les cas les moins graves, les cas les moins atteints, là, il n'y a pas eu d'effet noté de la dexaméthasone.
En tout cas, c'est vrai, à vous entendre, Simon Rosé, que les résultats ne sont pas extraordinaires, mais les chercheurs disent que c'est tout de même le premier médicament dont on observe qu'il améliore la survie de ceux qui ont contracté le virus Covid-19.
Oui, voilà, c'est pas un médicament qui va changer le cours de l'épidémie, mais c'est quelque chose, on prend, si on peut, ça permet de réduire la mortalité en service de réanimation chez les personnes les plus malades, même si ce n'est qu'un tiers, on va pas s'en priver, on va l'utiliser.
Ouais. Vous aviez une autre question, Jacques, je vous ai coupé la parole tout à l'heure.
Oui, ma seconde question est de savoir de quelle façon l'Organisation mondiale de la santé compte distribuer et le rendre accessible puisque c'est une pandémie.
Oui, et l'OMS appelle à distribuer donc ce traitement, ce médicament, rapidement et équitablement dans le monde. Simon Rosé, comment s'y prendre ?
Il n'y a pas trop de soucis puisque, comme je le disais, dexaméthasone, c'est un médicament qui est ancien, qui est très bien connu, qui est dans le domaine public. Il existe sous forme générique. En plus, il peut être commercialisé sous plusieurs formes. Il peut être pris sous forme de comprimé, sous forme de solution buvable, sous forme d'injection qu'on peut utiliser. Il y a eu des cas de pénurie ces dernières années. Donc, il va falloir monter un peu les chaînes de production, surtout s'il y a une grosse demande par rapport à l'épidémie de Covid-19. En ce moment, l'OMS est en train d'analyser les besoins spécifiquement dans chaque région du monde pour éviter justement ce phénomène de pénurie. Il y a plusieurs fabricants de dexaméthasone dans le monde sur tous les continents. Il y en a un déjà qui a été préqualifié par l'OMS, c'est le fabricant Ken Pharma en Espagne. Il y en a d'autres, il y en a un autre qui est en cours d'évaluation et d'autres qui, on l'imagine, vont le demander bientôt. A priori, il n'y a pas de risque de pénurie. Comme je le disais, c'est un médicament qui est très connu, qui est très utilisé sous plusieurs formes. On se doute que la demande va fortement augmenter maintenant que l'OMS le recommande dans son utilisation contre le Covid-19. Donc, il faut être vigilant, c'est tout. Il y a ce processus d'évaluation qui est en cours et puis on va adapter la fabrication en fonction de la demande.
Médicament qui, visiblement, ne sera pas produit en France.
A priori, non. Pas à ma connaissance. Après, ça peut peut-être changer vu que la France a une volonté de remettre sur son territoire un peu la production de médicaments et de principes actifs. Ce qu'il faut noter également pour la dexaméthasone, c'est que c'est un médicament qui est très abordable. C'est de l'ordre... Ça dépend de la forme qu'il prend, s'il est en comprimé, en solution buvable ou sous forme d'injection. Mais on est de l'ordre autour d'$1 pour ce
donc
médicament.
Donc, il sera accessible au plus grand nombre.
Est très abordable.
Oui, en plus avec le générique. Jacques, a-t-on répondu à vos questions?
Je suis satisfait, merci.
Merci à Simon Rosé du service Sciences de RFI. Bonne journée Jacques à Sokodé au Togo. D'autres questions à la rédaction évidemment demain. D'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'émission. Alors si jamais vous le faites sur Facebook, je le répète, je le dis régulièrement, faites-le en message privé. Et oui, ne postez pas votre numéro de téléphone publiquement, sinon vous risquez d'avoir des appels d'autres auditeurs, ça peut être sympa aussi, mais voilà, vos coordonnées restent, on va dire, secrètes, donc message privé, ce sera nettement mieux. Dans une petite minute, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra tout de suite après pour notre débat, après les regrets du roi des Belges concernant le passé colonial de la Belgique en République démocratique du Congo. C'est un geste inédit, un geste historique de la monarchie belge. Alors comment réagissez-vous ? Est-ce suffisant ? La RDC peut-elle se contenter de regrets ou au contraire, doit-elle exiger désormais des réparations ? C'est ce que réclament plusieurs personnalités en République démocratique du Congo. On aura l'occasion évidemment de commenter cette décision du roi et surtout ses appels à la réparation. Et si réparation il doit y avoir, quel type de réparation ? Est-ce forcément une réparation financière ? Le débat sera lancé dans tout juste 10 minutes.